Chapitre 10. La jeune dame en deuil et les deux vieux messieurs. 20 minutes avant le départ du train, nous étions confortablement installés l'un en face de l'autre dans un wagon de première classe. Le compartiment dans lequel nous nous trouvions était occupé par 3 voyageurs seulement, 2 vieux messieurs décorés et une jeune femme en deuil. Ces 3 personnes, je la pris en cours de route, étaient ensemble et devaient descendre à Rouen. Un peu après Mantes, à propos de je ne sais plus quoi, l'un des vieux messieurs adressa la parole à Manzana. Celui-ci répondit d'abord par monosyllabes et finit par donner libre cours à son habituelle faconde. Il se présenta comme attaché d'ambassade, puis se mit à parler de la Colombie, du Venezuela, de l'Uruguay. À l'entendre, il avait là-bas d'immenses propriétés, employait plus de 1000 travailleurs et se proposait d'acheter prochainement plusieurs centaines d'hectares à la Guyane. Les voyageurs l'écoutaient avec intérêt, et l'un des vieux messieurs, qui était un peu sourd, s'était même rapproché pour mieux l'entendre. Mis en verve par les exclamations admiratives de ses voisins, Manzana pérorait, lançait de grandes phrases ronflantes et semblait prendre plaisir à s'écouter parler. Dans le but d'émerveiller ses auditeurs et surtout la jeune dame qui buvait ses paroles, il tira de sa poche plusieurs parchemins portant les entêtes de diverses ambassades et exhiba des photos de personnages officiels sud-américains. « Tiens !» s'écria tout à coup un des vieux messieurs, « voici un gentleman que je crois bien reconnaître. Oh, c'est un de mes meilleurs amis, le señor José de Ravendos, président de la République de San Benito. » répondit Manzana, tout heureux d'étaler ses relations. « Nous avons été élevés ensemble au collège de Ricuerdo. » Le vieux monsieur prétendit connaître très bien ce Ravendos, et ce fut pendant près de 20 minutes, entre Manzana et lui, un étourdissant dialogue auquel finirent par se mêler la jeune dame et l'autre voyageur. « Je ne sais si vous êtes comme moi, mais lorsque je suis préoccupé, je ne puis entendre les gens bavarder autour de moi. » Bien que sollicité à plusieurs reprises, j'avais répondu évasivement à mes compagnons de voyage, et comme ils insistaient pour avoir mon avis, tantôt sur une question, tantôt sur une autre, je pris le parti de me renfoncer dans mon coin et de faire semblant de dormir. Manzana continuait de discourir, entassant mensonge sur mensonge, heureux de se voir admiré par des gens de distinction. Il s'était accoudé sur la banquette dans une pose nonchalante et ne se souciait pas plus de moi que d'une date. Il apparaissait bien là, sous son vrai jour, et je pouvais l'étudier à loisir. C'était un être vide, prétentieux, adorant la flatterie, mais d'un esprit très borné et d'une éducation douteuse. Quel triste compagnon j'avais là! Et comme il me tardait d'en être débarrassé. À Rouen, nos compagnons de voyage prirent congé de nous. Ce fut entre eux et Manzana un échange de politesses outrées. Mon associé, qui tenait décidément à passer pour un hidalgo, baisa galamment la main de la jeune femme et remit sa carte aux 2 messieurs en leur donnant rendez-vous à Monte-Carlo pour le mois suivant. « Mais quel bavard vous faites !» lui dis-je lorsque les gêneurs eurent disparu. « Mon cher, répondit Manzana, un homme du monde comme moi éprouve toujours un véritable plaisir à se retrouver avec des gens de sa condition. »« Merci du compliment, mais permettez-moi de vous dire que ces gens m'ont tout à fait l'air d'affreux rasta. Les 2 vieux messieurs, malgré leurs grands airs et leurs gestes arrondis, n'ont rien d'aristocratique. Il suffit de regarder leurs mains et leurs pieds. Quant à la femme, bon, c'est tout simplement une petite grue. » Manzana devint pourpre. « Une grue ? S'écria-t-il. Une grue, la Señora Mariquita de Rosario? Vous êtes fou, mon cher. Oh, on voit bien que vous n'avez pas souvent fréquenté des femmes du monde. Possible, mais je suis assez physionomiste pour voir tout de suite à qui j'ai affaire. Vous vous êtes tout simplement laissé empaumer par des aigres fins et... Je n'achevais pas. Une idée m'était souvent venue à l'esprit. Et le diamant, m'écriai-je, vous l'avez toujours, le diamant. Manzana eut un sourire méprisant, mais porta malgré tout la main à la poche de son gilet. Oh, 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 s'écria-t-il, c'est trop fort, il... Je m'étais précipité sur lui et le secouais par les épaules en hurlant. Il vous l'en prie, n'est-ce pas? Oh, nous sommes refaits. Vous vous êtes peut-être entendu avec eux, misérable. Vite, vite, lançons-nous à la poursuite de ces bandits, et je vous promets bien que si nous les retrouvons, pas vous, vous aurez offert à moi. Triple idiot, crétin, rastaquère. Le train qui s'était arrêté pendant 5 minutes se remettait en marche. Nous bondîmes dans le couloir, bousculant les voyageurs, nous frayant un chemin à coups de coude. J'avais poussé Manzana devant moi et m'en servais comme d'un bélier pour dégager le passage. Enfin, au risque de nous rompre le cou, nous sautâmes sur le quai au grand effroi des employés. Comme nous étions descendus presque à l'entrée du tunnel qui se trouve au bout du débarcadère, nous fûmes obligés de revenir sur nos pas pour gagner la sortie. Là, je questionnai à la hâte un employé qui me regarda d'un air niais. « Voyons, criai-je exaspéré, deux vieux messieurs et une jeune femme, ils sont bien descendus ici, vous avez dû les voir. »« C'est pas, » répondit l'homme avec un accent traînant. « Adressez-vous au bureau de renseignement, moi je suis là pour recevoir les billets, m'occupe pas de la tête des gens. » Comprenant que je ne tirerais rien de ce butor, j'entraînai Manzana. Il avait maintenant perdu de sa belle assurance et se laissait conduire comme un enfant. Devant la gare, il y a une petite place qui va en montant vers la ville. Des fiacres archaïques avec des cochers rubicons et malpropres stationnaient là dans l'attente des voyageurs. Quelques taxis qui avaient déjà été retenus disparaissaient les uns après les autres, mettant sur le sol des étincellements rapides. Parbleu, pensais-je, nos gredins ont pris un taxi. Oh, mais nous les retrouverons. Dussions-nous bouleverser toute la ville. Cependant, je restais là, planté devant la station de voiture, incapable d'une décision quelconque. Pour une fois, Manzana eut une bonne idée. « Nous n'avons qu'une chose à faire, dit-il, c'est de prendre une voiture et de nous faire conduire dans les principaux hôtels de Rouen. Nous finirons bien par savoir où nos gens sont descendus. » La colère m'étouffait, je n'étais plus maître de moi, j'avais envie d'étrangler mon compagnon. Ah, si jamais je le retrouvais, le diamant! Je me promettais bien de le garder pour moi seul et de faire ainsi payer à ce stupide Manzana les tortures que j'endurais à cause de lui. Je le poussai dans un fiacre après avoir jeté ces mots au cocher. « Nous cherchons quelqu'un, menez-nous dans les grands hôtels de la ville. »« Bien, monsieur, répondit l'homme, mais c'est qu'il y a beaucoup d'hôtels ici. » Mais commencez par ceux de premier ordre. Compris. Le fiacre partit à petite allure. Il était tiré par un pauvre cheval boiteux qui butait à chaque pas et s'arrêtait par instant pour souffler. Dans la descente de la rue Jeanne d'Arc, il accéléra un peu son train, mais nous n'allions guère plus vite que si nous avions suivi un convoi funèbre. À toute minute, je passais la tête par la portière et stimulais le zèle du cocher par la promesse d'un bon pourboire. Mais il avait beau cingler sa rosse, nous n'avancions pas. Et dans mon exaspération, je déchargeais ma bile sur Manzana, qui, blotti dans un coin de la voiture, me regardait d'un air ahuri. Je lui prodiguai toutes les injures que je savais, et parfois, pris d'une rage subite, je lui empoignais les bras et lui enfonçais mes doigts dans la chair. Bon, il ne disait rien. Ce n'était plus un homme, c'était une vraie loque. J'allais même jusqu'à l'accuser d'être de complicité avec les rastas du wagon, mais je compris bientôt que cette accusation était ridicule. Il avait trop de raisons de tenir, lui aussi, au diamant, et il n'eût pas été assez naïf pour le partager avec trois personnes. Il s'était laissé rouler, voilà tout. Le fiacre s'arrêta enfin devant un hôtel situé au fond d'un jardin minuscule. Je me précipitai au bureau et interrogeai rapidement la caissière. Les renseignements qu'elle me fournit furent des plus vagues. Bon, elle avait vu beaucoup de monde dans la soirée, des jeunes gens, des vieillards, quelques femmes, mais aucun de ces voyageurs ne répondait au signalement que j'en donnais. Nous visitâmes encore 5 hôtels. Partout, ce furent les mêmes réponses ambiguës, jetées d'un ton sec, désagréable, et quand sonnèrent 2 heures du matin, nous n'étions pas plus avancés qu'à notre sortie de la gare. Comme nous ne pouvions garder le cocher toute la nuit, je le fis stopper sur la place de la cathédrale et demandai ce que je lui devais. « C'est 18 francs, répondit-il, et le pourboire en plus. » Je me fouillai, mais au moment où j'introduisais la main dans la poche de côté de ma jaquette, un petit frisson me courut le long des reins. Mon portefeuille avait disparu. Ce qui avait dérobé le diamant à Manzana avait aussi pris mon portefeuille. J'eus la présence d'esprit de ne rien laisser paraître de mon trouble en présence du cocher. Tirant de ma poche un papier quelconque, je dis avec aplomb « Avez-vous la monnaie de 500 francs ?» Le bonhomme roula des yeux effarés. « Non, fit-il. Vous croyez comme ça qu'on se promène avec la monnaie de 500 francs ?»« Mais où pourrait-on en faire ?»« Nulle part, tout est fermé maintenant. » Et comme je demeurais indécis, « Votre ami a peut-être de la monnaie, lui ?»« Non, répondit Manzana, j'en ai pas. » Le cocher s'impatientait. « Oh, vous savez, cria-t-il, faut pas me la faire, je connais le coup. Vous me devez 18 francs, plus le pourboire, payez-moi ou vous venez avec moi au poste de police. » Oui, « c'est cela, dis-je, allons au poste, est-ce loin d'ici ?» Non, là, à 2 pas, place de l'hôtel de ville. Nous remontâmes en voiture, Manzana et moi. Le cocher fouetta son cheval. Vraiment ? Questionna mon associé en se penchant à mon oreille. Vous avez un billet de 500 francs ? Vous ne voyez donc pas que c'est de la frime. Mon billet de 500 francs est une simple feuille de papier. Je suis sans un sou. Vos amis m'ont dévalisé. Mais comment, vous aussi ? Mais alors, qu'allons-nous dire en arrivant au poste ? Mais vous pensez bien que nous n'allons pas être assez stupides pour y aller. Ouvrez doucement la portière de votre côté, moi je vais faire de même. La voiture va assez lentement pour que nous puissions sauter à terre sans danger. Attention, y êtes-vous ? Nous arrivions à ce moment au coin d'une rue obscure. Nous quittâmes le fiacre si prestement et avec une telle légèreté que le pauvre cocher ne s'aperçut point de notre disparition. Quand le brimbalement des portières que nous avions laissées ouvertes l'avertit enfin de notre fuite, il poussa un juron formidable, mais nous étions déjà loin. Après avoir couru pendant environ un quart d'heure, en faisant le plus de détours possible, nous nous trouvâmes sur les quais. Il tombait une pluie glaciale et le vent qui soufflait par bourrasque faisait clignoter la flamme des réverbères. Nous nous mîmes à l'abri derrière un hangar. Et bientôt, un douanier, qui nous prit sans doute pour des chapardeurs, nous chassa en nous accablant d'injures. Nous tentâmes de nous réfugier sous la porte d'un dock qui était demeurée entrouverte, mais un veilleur de nuit nous reçut comme des chiens errants. Enfin, grâce à la complaisance d'un employé de chemin de fer, nous trouvâmes un refuge dans un wagon réformé que l'on avait commencé à démolir. Une partie de la toiture en avait été enlevée, et il faisait dans cette roulotte un froid sibérien. Manzana et moi nous blottîmes dans la paille et attendîmes ainsi le jour. Je ne sais à quoi songeait mon compagnon, mais moi, je sais que je fis cette nuit-là de bien tristes réflexions. Lorsque l'on est malheureux, comme je l'étais, le moindre souvenir vous attriste, et l'on a envie de pleurer en se rappelant les heures heureuses que l'on a vécues autrefois. Je me revoyais à Ramsgate, tranquille, la poche bien garnie, à la suite d'une opération fructueuse, flirtant avec Edith que j'avais rencontrée au Royal Oak. Puis nous partions pour Paris. C'était alors la lune de miel, de longues soirées d'amour devant un bon feu de bois, la vie joyeuse, les rêves sans fin que forment les amoureux. Je me souvenais aussi, avec une émotion délicieuse, de la nuit où je m'étais emparé du régent, et je me mis à pleurer à chaudes larmes en songeant à ces deux disparus, Edith et le diamant. Manzana essaya de me consoler, mais je le rembarrai si brutalement qu'il ne dit plus un mot. Parfois, je l'injuriais sans mesure, puis le voyant aussi malheureux que moi, je finissais par m'apitoyer sur son compte. C'était là, je le reconnais, de la pitié bien mal placée, mais on a pu remarquer au cours de ce récit que je suis à certaines heures d'une sensibilité exagérée. Quand parut le jour, un jour terne, maussade, mon compagnon et moi nous nous concertâmes. Nous allions rôder aux abords des hôtels, peut-être aurions-nous la chance d'y rencontrer un de nos voleurs. Nous irions aussi dans les gares à l'heure du départ des trains. Mais nous nous écarterions avec prudence de tout véhicule conduit par un cocher rubicond et traîné par une rosse clopinante. De 10 heures du matin à midi, nous errâmes par les rues, l'estomac vide, les jambes molles. Je songeais déjà à vendre le revolver de Manzana, quand mon attention fut attirée soudain par un individu qui marchait devant nous. Il me semblait avoir déjà vu cette charpente là, quelque part. J'allais devancer l'homme afin d'apercevoir son visage, quand une occasion s'offrit qui me permit de l'examiner à loisir. Il entra chez un bijoutier et dès qu'il se présenta de profil, je le reconnus. C'était l'un des vieux messieurs de la veille. Ah, décidément, cette fois encore, le hasard faisait bien les choses. Le drôle était probablement venu dans cette boutique pour s'assurer auprès du marchand que le diamant n'était pas en toc. Vite, dis-je à Manzana, faites comme moi, baissez votre chapeau sur vos yeux. S'il nous reconnaît, tout est perdu. Postés tous deux au coin de la devanture, nous ne perdions pas un des gestes de notre voleur. Nous le vîmes tirer quelque chose de sa poche, le développer, le présenter au bijoutier, qui eut une exclamation de surprise. Parbleu! Il n'avait pas souvent vu des diamants comme le régent. Il le regarda à la loupe, puis le posa sur une petite balance de cuivre, hocha longuement la tête et finalement le rendit au vieux monsieur. Celui-ci replaça le régent dans le petit sac que l'on connaît, puis s'entretint un moment avec le bijoutier. Il cherchait évidemment à expliquer comment il se trouvait en possession d'une telle pierre précieuse. J'eus à ce moment l'idée de faire irruption dans la boutique en compagnie de Manzana, de me donner comme inspecteur de la sûreté, d'arrêter l'homme et de saisir le diamant, mais je compris tout de suite que cette façon de procéder m'amènerait pas le résultat que j'en attendais. Le marchand nous accompagnerait pour servir de témoin, et au commissariat, on confisquerait l'objet. Nous ne serions pas plus avancés que devant. Attention, dis-je à Manzana, ouvrez l'œil. Nous allons filer cet individu-là quand il va sortir, mais n'oubliez pas que si nous le laissons s'échapper, si nous perdons sa piste, nous perdons aussi notre diamant. Oh, soyez tranquille, il ne nous échappera pas. Et mon compagnon traversa rapidement la rue. L'homme était maintenant sur le pas de la porte. Il causait avec le bijoutier, et je remarquai que celui-ci semblait chercher quelqu'un, un agent probablement, afin de lui signaler le particulier. Mais en province, comme à Paris, quand on a besoin d'eux, les agents ne sont jamais là. Je m'étais tourné à demi pour que le vieux monsieur ne pût me reconnaître. Quand enfin il quitta le bijoutier, je fis à Manzana un signe d'intelligence et me lançai sur les traces de notre voleur. Le filou marchait d'un bon pas et il me parut que, pour un vieillard, il avait le jarret joliment élastique. Il descendit la rue Grand-Pont, tourna à droite, s'arrêta un instant pour acheter des journaux, puis s'installa sur le quai de la Bourse, à la terrasse d'un café. Manzana et moi, nous nous dissimulâmes derrière un kiosque. Oh, je crois que nous le tenons, dis-je. Oui, répondit mon associé, mais nous pouvons nous jeter sur lui en plein jour, si encore nous savions à quel hôtel il est descendu. Bon, nous le saurons bientôt, soyez tranquille. Un quart d'heure s'écoula. Notre gredin lisait toujours son journal, mais il devait certainement attendre quelqu'un, car de temps à autre, il jetait un rapide coup d'œil dans la direction de la bourse. Déjà, oh, cela était visible, il commençait à s'impatienter quand une femme s'approcha vivement de lui. Oh, voici notre Signora, dis-je à Manzana. Oui, oh, j'ai bien reconnu la garce. Dès que la jeune femme se fut assise, notre individu se mit à lui expliquer quelque chose en lui parlant à l'oreille. Il lui racontait évidemment la visite qu'il venait de faire au bijoutier et ce que celui-ci lui avait dit. Je m'étonnais cependant de ne pas voir arriver l'autre vieux monsieur, celui qui la veille avait entamé la conversation avec Manzana. Sans doute était-il parti en expédition, car ces gens que je considérais maintenant comme des bandits étaient des confrères, des cambrioleurs comme moi. Je devais même me reconnaître qu'ils étaient très habiles, et en toute autre circonstance, j'aurais eu pour eux de l'admiration. Leur façon de travailler, quoique différant sensiblement de la mienne, n'en était pas moins très ingénieuse. Ils exerçaient probablement depuis longtemps, bien qu'ils ne fussent pas aussi vieux qu'ils s'efforçaient de le paraître. Ils avaient dû, pour inspirer plus de confiance, se coller une perruque et une barbe blanche, car rien n'impose le respect comme un vieillard à la chevelure de neige, décoré de la Légion d'honneur, même lorsqu'il sait de son propre chef décerner cette haute distinction. La foule est gobeuse, elle aime ce qui est vénérable, et ne se méfie presque jamais d'un vieux monsieur décoré. Quant à moi, ma façon de travailler est tout autre. Je crois l'avoir déjà dit. Au lieu d'arborer des complets extravagants et des cravates multicolores, je préfère une mise simple et modeste qui permet de passer partout sans être remarqué. Ne pas être remarqué, c'est aussi une force, et je crois l'avoir suffisamment prouvé. Tout en me livrant à ces réflexions cambriolo-philosophiques, je ne quittais pas de l'œil mon voleur et la jeune femme qui était assise à côté de lui. Cet homme portait ma fortune sur lui, et j'étais prêt à tout tenter pour la lui reprendre, à tout, même au crime. Il est vrai que je pourrais, pour ce qui était de cette dernière solution, avoir recours à Manzana, qui ne devait pas être un novice en la matière, si je m'en référais à l'opinion de la dame au manteau de loutre, entrevue aux Champs-Élysées. Chapitre 11, où je me décide à brusquer les choses. Lorsque le vieux monsieur et la jeune dame se levèrent, je fis un signe à Manzana et nous leur emboîtâmes le pas. Ils n'allèrent pas loin. À 50 mètres du café se trouve l'hôtel d'Albion. Ils y entrèrent. La filature devenait difficile, car nous ne pouvions, Manzana et moi, sales comme nous l'étions, pénétrer dans le hall où l'on apercevait un domestique en culotte courte, raide et grave, comme un bonhomme en cire. J'eus par bonheur une inspiration. Roulant à la hâte mon mouchoir dans un journal, je confectionnai un petit paquet que je tins ostensiblement à la main et me précipitai vers le bureau de l'hôtel en disant: C'est bien le locataire du 21 qui vient de rentrer avec une jeune femme, n'est-ce pas? J'ai là quelque chose pour lui. Ah non, répondit d'un ton maussade une vieille caissière aux cheveux à cajou. C'est pas le numéro 21 qui vient de rentrer. C'est le 34, vous faites erreur. En tout cas, si vous avez un paquet à remettre au 21, laissez-le à la caisse. Mon merci, dis-je, en esquissant un gracieux sourire, je reviendrai. Manzana m'attendait devant la porte. Eh bien? Demanda-t-il. Eh bien, j'ai déjà une indication. Je sais quel est le numéro de la chambre de notre voleur. C'est le 34. Et son nom? Oh, je l'ignore. Mais qu'importe, du moment que je sais où trouver l'homme. Vous avez l'intention de vous introduire chez lui? Oh, mais oui, et avec vous, je suppose. Mais c'est grave, cela. Et la perte de notre diamant, croyez-vous que ce soit pas plus grave? Certes, mais le coup est dangereux à tenter et encore plus dangereux à réussir. Mais nous tâcherons de ne pas le manquer. Voyez-vous une autre solution? Pour le moment, non. Il n'y en a pas d'autre, allez. Et nous essayerions cela en plein jour? Oui, ce serait préférable. Et si nous sommes pris? Oh, on ne nous prendra pas. J'admire votre confiance, mais si cependant cela arrivait, ben nous perdrions notre diamant, mais nous ne serions pas inquiétés. Au contraire, on nous adresserait des félicitations. Manzana ouvrait les yeux larges comme des hublots. Je vous comprends plus. Je fouillai dans ma poche et en tirai une carrée de carton que je tendis à mon associé. Une carte d'agent de la sûreté? Fit Manzana stupéfait. C'est pas à vous, je suppose. Bien sûr, je l'ai prise à un grand dadais de policiers qui habitait à Paris la même maison que moi. Oh, très bien, et vous allez vous servir de cette carte pour pénétrer chez l'autre voleur? Peut-être. Mais moi, vous êtes mon collègue. Du moment que je monte ma carte, cela vous dispense d'exhiber la vôtre. Parfait, et ensuite? Ensuite, je sais pas, moi. Tout dépendra des circonstances. Il est bien difficile dans ces sortes d'affaires de prévoir comment cela tournera. Je n'ai qu'une crainte. Laquelle? Ben, c'est que le patron de l'hôtel ne nous fasse accompagner à la chambre 34. Ben, vous devez vous y attendre. Cela gâterait tout. Et si nous arrêtions l'homme quand il sortira? Non, mais c'est stupide ce que vous proposez là. La foule s'amasserait, nous serions obligés d'aller au poste, Et là, on fouillerait notre voleur et le diamant serait confisqué. Alors, si nous abordions carrément le type dans la rue en le menaçant, s'il ne nous rend pas le diamant, de le conduire au commissariat. Mais toujours la même chose, mon cher. Au bruit de la discussion, des gens nous entouraient et l'affaire serait manquée. Il faudrait passer ce vilain individu le soir dans une rue déserte. Oui, mais nous n'aurons pas cette chance, croyez-le. Tout en parlant, nous faisions les 100 pas devant l'hôtel. Ma foi, dis-je, allez, risquons le coup maintenant, nous allons bien voir. Vous êtes prêt à me seconder? Il faut bien, puisque nous sommes associés. Oh, ne me le faites pas, l'association, n'est-ce pas? Vous voulez votre diamant, moi aussi. Et si nous le retrouvons, j'espère que cette fois, vous ne chercherez plus à me l'enlever. Bon, mon cher Pipe, je vous le jure, et vous ne me le laisserez. C'est moi qui en aurai la garde. Oh, voilà déjà que vous voulez tirer toute la couverture à vous. J'ai bien le droit de me méfier après ce qui est arrivé. Si j'avais eu le diamant dans ma poche, vous n'en seriez point où nous sommes. C'est peut-être vrai, mais avouez que le diamant et le revolver, c'était vraiment trop pour vous et pas assez pour moi. Tenez, je vais vous proposer une combinaison. Si nous avons la chance de rentrer en possession de notre régent, nous le porterons sur nous à tour de rôle, une semaine chacun. Mais celui qui en aura la garde cédera le revolver à l'autre, est-ce entendu? Moi, je vais vous proposer autre chose. Dès que nous aurons trouvé quelque argent, et nous y arriverons sûrement là-bas, en Angleterre, nous louerons un coffre-fort dans une banque, et nous y déposerons notre diamant dans une boîte cachetée. Mais il sera bien convenu avec le directeur de la banque que nous ne pourrons retirer notre dépôt que tous les deux ensemble et en présence de l'employé. Comme cela, nous vivrons au moins tranquilles et ne serons pas continuellement à nous épier comme deux peaux rouges sur le sentier de la guerre. Ma foi, répondit Manzana, si vous voulez mon avis, je préfère encore la première solution. Soit, accordai-je, c'est convenu. Vous voyez qu'entre gens raisonnables, on finit toujours par s'entendre. Mais oui, j'en étais persuadé. J'ignorais quelles étaient réellement les intentions de Manzana, mais je savais bien que moi, j'étais fermement décidé à lui enlever de force ce que je considérais comme mon bien. Et lui, de son côté, devait avoir la même idée. En somme, nous avions discuté en pure perte. Nous avions cherché à bluffer l'un et l'autre, mais nous restions sur nos positions. J'ajouterai qu'à la minute où avaient lieu ces pourparlers, j'étais prêt à céder sur tous les points, car pour le coup de force que nous allions tenter, j'avais absolument besoin de Manzana. Nous nous serrâmes la main. Allons, dis-je, de l'audace. Comptez sur moi, répondit mon associé. Six personnes nous accompagnent à la chambre 34. Nous entrons. Je menace le voleur avec mon revolver, pendant que vous vous jetez sur la femme et la bâillonnez. Ensuite, vous faites subir la même opération à l'homme, nous le ligotons et le fouillons aussitôt. Bon, je vous ferai remarquer que dans cette entreprise, c'est moi qui aurai la partie la plus difficile. Mais si j'avais votre musculature, mon cher, j'assumerais volontiers cette tâche. Maintenant, réfléchissez bien. Si vous avez peur, dites-le. Peur, moi? Allons donc. Une fois que j'y serai, vous verrez. Le tout est de se mettre en train, mais attention à les pas de blague. Hein. Si vous voyez du premier coup que l'affaire colle pas, ne commettez point d'imprudence. Soyez tranquille, je n'opérerai qu'à bon escient. Ouais, vous avez bien tout combiné, tout prévu. Cependant, permettez-moi de vous faire observer que vous avez oublié une chose. Ah, et laquelle? Mais vous avez supposé que l'on vous ouvrirait dès que vous auriez frappé. Et si notre homme, qui doit être un malin, se méfiait de quelque chose et refusait d'ouvrir, que feriez-vous? Alors, bon, nous trouverions une autre combinaison. Nous attendrions qu'il sorte et, dès qu'il paraîtrait, nous le repousserions aussitôt dans ma chambre en lui mettant le revolver sous le nez. Et s'il a aussi un revolver? Oh, on n'a pas pour habitude de sortir d'un appartement avec une arme à la main. Croyez-moi, mon cher Manzana, nous n'y livrons pas d'avance à des suppositions qui finiraient par émousser notre courage. Allons-y carrément, comme si nous étions de vrais agents de la sûreté. La chose la plus fâcheuse qui puisse nous arriver, je vous l'ai déjà dit, c'est que nous serions obligés d'aller au poste et de voir notre diamant passer de la poche de notre voleur dans celle du commissaire. Et encore, peut-être bien que je trouverai un truc pour le ravir au commissaire. Vous avez réponse à tout, eh bien, essayons. Je suis votre homme. Nous pénétrâmes dans le hall de l'hôtel, et à notre grande surprise, personne ne s'avança à notre rencontre pour nous demander ce que nous désirions. Froidement, je traversai le vestibule et m'engageai dans l'escalier en compagnie de Manzana. Au premier étage, je consultai la liste des numéros. Le 34 se trouvait justement sur le palier où nous étions. « Bon, mais ça va trop bien, » pensais-je. Et je me sentis envahi par une indéfinissable inquiétude. Alors j'écoutais pendant quelques instants. Un homme toussa dans la chambre où je m'apprêtais à pénétrer. Je tirai mon revolver, fis un signe à Manzana et frappai légèrement à la porte. « Entrez !» dit une voix enrouée. J'entrai en coup de vent, le revolver à la main. Mais à ma grande surprise, au lieu de me trouver en présence du vieux monsieur que je croyais bien rencontrer, j'étais en face d'un homme de 40 ans environ, très blond et le visage entièrement rasé. J'allais me retirer en m'excusant comme je pourrais, quand Manzana s'écria tout à coup. « Allez-y, allez-y, c'est lui, je le reconnais !» En effet, moi aussi, je venais de reconnaître mon voleur. Au lieu d'avoir les cheveux blancs, il était blond, et la barbe vénérable qu'il arborait la veille avait disparu. Mais ce qui n'avait pu changer, c'était ses yeux, deux yeux noirs, étranges et brillants, dont l'un était un peu plus petit que l'autre. D'ailleurs, si j'avais pu conserver encore quelques doutes, la jeune femme de la veille se fut chargée de les dissiper, car elle venait soudain de sortir du cabinet de toilette attenant à la chambre. J'avais refermé la porte et je tenais mon arme braquée sur notre voleur. Je remarquai aussitôt que cet individu ne brillait point par le courage. Il me regardait avec un effarement ridicule et tremblait comme un chien mouillé. Déjà, mon associé s'était jeté sur la femme, l'avait bâillonnée avec une serviette et roulée dans une couverture dont il avait solidement noué les deux extrémités. « À celui-là, maintenant, commandai-je. » Manzana, avec une habileté qui détenait une longue pratique, bâillonna également l'homme et lui attacha bras et jambes avec les embrasses des rideaux. Nous étions maîtres de la situation. Notre premier soin fut de fouiller le drôle, mais nous eûmes beau explorer ses poches, nous ne trouvâmes sur lui qu'un portefeuille dont je m'emparais, un porte-cigare en acier bruni et un trousseau de clés. Parbleu, le gredin avait dû cacher le diamant dans sa valise. Nous ouvrîmes celle-ci, mais nous eûmes beau tourner et retourner tout ce qui s'y trouvait, nous ne découvrîmes absolument rien. Et pourtant, j'étais bien sûr que le misérable, lorsqu'il était rentré à l'hôtel, avait le diamant dans sa poche. Où l'avait-il caché? Je le fouillais de nouveau, regardais même dans ses bottines, le palpais en tous sens, mais rien. Manzana, qui suivait cette opération avec un intérêt que l'on devine, me souffla tout à coup. « Mais il l'a sans doute refilé à la femme. » Nous démaillotâmes cette dernière, mais au moment où je commençais à explorer les poches de sa jupe, quelqu'un frappa à la porte trois petits coups rapides. Nous demeurâmes immobiles, retenant notre respiration. On frappa encore une fois, et une grosse voix demandait « Ludovic, êtes-vous là ?» Quelques secondes s'écoulèrent, puis le visiteur, n'obtenant pas de réponse, et pour cause, se décida à s'en aller. Nous l'entendîmes descendre l'escalier, et quand le bruit de ses pas se fut éteint tout à fait, je continuai ma fouille. Peut-être n'y mis-je point toute la réserve qu'un gentleman doit observer à l'égard d'une femme, mais bien m'en pris, car je découvris enfin, cousu à la jartelle de la dame, le petit sac en peau de daim qui contenait le diamant. Après m'être assuré que c'était bien mon régent qui était enfermé dans ce sac, je glissai celui-ci dans la poche de mon gilet, aidai Manzana à reficeler la signora, et nous nous dirigeâmes vers la porte. Je reconnais qu'à ce moment mon cœur battait une furieuse chamade, et j'aurais bien donné 10 ans de ma vie pour être dehors. Nous écoutâmes, un petit craquement nous fit tressaillir, et nous crûmes un moment que quelqu'un se tenait en arrêt derrière la porte. Ce fut ensuite le martèlement rapide et léger d'une bottine de femme sur le tapis du couloir, puis le pas lourd d'un homme qui descendait l'escalier. En bas, on entendait un tintement de verre et d'assiette et parfois la sonnerie tremblante du téléphone qui couvrait tous les bruits. Je jetai un coup d'œil sur nos deux victimes. Elles n'avaient pas bougé de place, et je me demandais si leurs bâillons ne les avaient pas étouffés. Pris d'un remords, je m'approchai doucement de l'homme. Il respirait à peu près normalement. Quant à la femme, son souffle était imperceptible et je constatais qu'elle était évanouie. Je desserrai un peu la serviette qui lui comprimait le visage, puis revins près de la porte devant laquelle Manzana se tenait accroupie. Je lui touchai l'épaule. Il se retourna et nous nous consultâmes du regard. Il eut un petit signe de tête affirmatif et tourna doucement la clé. 2 secondes après, nous étions dans le couloir. Il était absolument désert. Sans nous presser, de l'air de deux paisibles voyageurs à la conscience tranquille, nous nous engageâmes dans l'escalier. Au moment où nous atteignions les dernières marches, un vieux monsieur, que nous reconnûmes parfaitement, arrivait accompagné d'un garçon d'hôtel, et nous l'entendîmes qui disait « Mais c'est pas naturel, je vous dis qu'ils sont dans leur chambre, je les ai entendus remuer. » J'avais rapidement, en apercevant le vieux monsieur, tourné la tête du côté de la muraille, et Manzana avait porté la main à son visage. Cette précaution était, je crois, bien inutile, car le voyageur n'eut même pas l'air de nous remarquer. Nous traversâmes à pas comptés le vestibule encombré de bagages et de porteurs, mais une fois dehors, nous nous mîmes à courir comme des fous dans la direction d'un pont et 5 minutes après, nous étions de l'autre côté de la Seine. Alors seulement nous respirâmes, et, oh, ce fut plus fort que nous, nous nous mîmes à rire aux éclats. Une grosse dame qui passait se figura sans doute que nous nous moquions d'elle, et nous traita d'insolents, nous décochant un regard indigné. Mais nous ne crûmes pas nécessaire de nous excuser. Nous engageant rapidement dans une rue bordée de docks et de magasins, nous pûmes enfin échanger nos impressions. « Ah !» me dit Manzana, « je crois que cela a été bien joué. »« Supérieurement, mon cher. » Je tiens à vous adresser tous mes compliments pour la façon merveilleuse dont vous avez bâillonné et ficelé nos voleurs. Sans doute, je le reconnais, je n'aurais pas pu mener à bien cette petite expédition. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Il ne s'agissait pas de lambiner, nous eurions notre liberté et notre fortune. Oui, et notre fortune. Mais je crois qu'il serait bon de nous tenir sur nos gardes, car la police va s'occuper de cette affaire et commencer une enquête. Évidemment, à Paris, ce petit drame passerait presque inaperçu, mais ici, il va prendre des proportions colossales. La ville va être sans dessus-dessous. Que comptez-vous faire? Mais partir, et le plus vite possible encore. Et de l'argent? Ben, attendez, nous en avons peut-être. Et tirant de ma poche le portefeuille que j'avais dérobé à ma victime, je me mis à l'explorer rapidement. Hélas, il ne contenait en tout et pour tout qu'un billet de 50 francs. C'est maigre, fit Manzana. Quel puretin que ces gens-là! Et pourtant, ça en faisait des manières. On aurait dit qu'ils étaient les fils d'un nabab. Après tout, c'était sans doute l'autre qui avait la galette, vous savez, celui qui est venu frapper à la porte. Peut-être, mais en ce cas, il est fâcheux que nous ne soyons pas tombés aussi sur lui. Mais dites donc, mon cher, je ne sais si vous êtes comme moi, j'ai l'estomac dans les talons. Allons déjeuner, nous verrons ensuite à quitter la ville. Un caboulot portant comme enseigne haut débardeur étalait devant nous sa façade malpropre aux glaces étoilées. Nous y entrâmes et nous fîmes servir à une petite table, mais à peine fûmes-nous assis que je regrettais d'avoir choisi ce restaurant de cinquième ordre. Les gens qui étaient là nous regardaient avec étonnement. Nous mangeâmes néanmoins, sans nous presser, un brouet infect que nous arrosâmes d'un cidre sûr, puis nous nous levâmes. La salle était à ce moment presque vide. Seuls quatre ou cinq pochards attablés devant une bouteille d'eau-de-vie jouaient aux cartes en s'injuriant comme des portefaix qu'ils étaient. Je me présentai au comptoir où trônait une grosse commère au visage couperosé et lui demandai combien je lui devais. Elle jeta un coup d'œil sur la table que nous venions de quitter, fit un rapide calcul et répondit: C'est 6 francs 8 sous. Je lui tendis le billet de 50 francs. Elle le prit, le retourna un moment entre ses doigts, l'examina devant la fenêtre, puis s'écria soudain, en me foudroyant du regard: Mais il est faux, votre billet! Oh, il ne nous manquait plus que cela. Que pouvions-nous faire? Discuter, ou cela n'eût avancé à rien? Je compris que le plus sage était de battre en retraite. Manzana était déjà dehors, moi tout près de la porte. Avec la rapidité d'un zèbre poursuivi par un chasseur, je m'élançai dans la rue et pris ma course vers les quais, suivi de mon associé. Avant que la grosse débitante fût revenue de sa surprise et eût pu lancer quelqu'un à notre poursuite, nous avions disparu parmi l'encombrement des barriques et des balles de coton arrimées sur le port. Néanmoins, comme nous ne nous sentions pas en sûreté au milieu des débardeurs et des calfats qui allaient et venaient, nous enfilâmes une rue puis une autre, marchâmes pendant près d'une heure et nous arrêtâmes enfin devant un jardin public. Entrons là, dis-je à Manzana.